Bonjour à tous, vous allez bien sous le beau soleil angevin? Vous êtes toujours des anges à Angers? Toujours? Oula, que se passe-t-il, mes chers angevins du cœur? En tout cas, moi je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Je ne sais pas pour vous, vous êtes heureux d'être là ce matin?
Amen.
Amen. On est heureux, frères et sœurs. Vous savez, il n'y a rien de plus beau. Des fois, dans la semaine, on a des petits soucis. Il y a des choses qui ne vont pas forcément très, très bien. Mais la Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Que les choses soient favorables ou non, ne vous laissez pas abattre. Rendez grâce à Dieu. Dites-lui, Père, moi, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui, moi, je te rends grâce. C'est comme ça avec Dieu. Ne cherche pas à te dire, il faut que Dieu m'explique pourquoi cela m'arrive aujourd'hui. Ah, si tu fais comme ça, mon frère, ma sœur, là, Dieu n'a pas vraiment l'intention de se justifier devant qui que ce soit. Eh bien oui, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Toutes choses dépendent de lui. Donc, Dieu n'a pas à donner une justification à qui que ce soit. La raison, c'est Dieu. C'est pour cette raison que quand nous avons un problème, rendons-lui grâce. Disons-lui simplement, Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis dans la maison, au milieu de l'assemblée des justes. Je suis là, je peux te louer, je peux t'adorer, je peux te célébrer. Et ce matin, j'aimerais simplement aborder avec vous un thème, c'est, vous savez, l'Église a une mission principale qui est scindée en deux. La mission de l'Église, c'est dans un premier temps d'adorer Dieu. Bon, on peut dire globalement, c'est de servir Dieu, parce que l'adoration, c'est le service aussi. C'est d'adorer Dieu. Et la deuxième chose, c'est de faire connaître Dieu. Et je crois que nous serons d'accord ce matin que nous sommes des fervents adorateurs et adoratrices de Dieu. Nous aimons adorer Dieu. Mais est-ce que nous remplissons le deuxième volet de notre mission? Frères et sœurs, vous savez, dans une famille, lorsque nous n'avons plus de projet, la famille est en train de mourir. Ce qui fait vivre, vous avez remarqué que ce qui fait vivre l'être humain, c'est le fait de se projeter. Quand on ne se projette pas, on n'a plus envie de vivre. C'est pour cette raison qu'il y a des gens, lorsque par exemple ils perdent leur travail, ils se disent « moi je n'ai plus aucune importance dans cette vie ». Et quand c'est radical, ils pensent qu'il faut mettre fin à leur jour. Vous voyez, parce que les gens ont besoin de quelque chose. Et moi j'espère que ce n'est pas le cas pour un enfant de Dieu ce matin. Même si tu as perdu ton emploi, tu n'as pas perdu Jésus. Et Jésus est capable de te soutenir dans ce moment où tu es à la recherche d'un emploi. Mais pour les hommes et les femmes qui sont sans espérance, eh bien évidemment, lorsqu'ils sont, parce qu'ils sont attachés à ces choses, et lorsque ces choses les lâchent, lorsque ces choses les abandonnent, ils se sentent complètement démunis et ils ne savent pas comment faire. Et en ce moment-là, par eux-mêmes, ils veulent trouver des moyens pour s'en sortir. Et si souvent, ils choisissent des méthodes radicales qui les conduisent à faire des choses qui sont regrettables. Donc nous avons une mission d'adorer Dieu et de faire connaître Dieu. L'Église n'est pas la finalité. L'Église est une agence du royaume de Dieu. Et une agence, ce n'est pas le siège. Une agence de voyage, par exemple, lorsqu'on veut acheter un billet ou lorsqu'on veut... Hein, voilà, tout le monde est rentré des vacances maintenant. Hein. Mais vous pouvez retourner en Grèce, ça fera du bien à leur économie. Ah, ça, vous vous dites, ça y est... Il est dans le lobbying de la Grèce. Voilà, les Grecs l'ont payé pour faire la pub pour qu'on aille en vacances en Grèce. Non, c'est pas ça. Nous sommes une agence. Et l'agence est là pour faire la promotion de son entreprise, oui ou non. Quand on va dans une agence de voyage, elle fait tout pour nous vendre les destinations. L'Église est une agence du royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre pour faire quoi? Pour faire connaître Dieu. Et quand on arrête de faire connaître Dieu à la terre, nous nous sentons inutiles. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Le juste est messager de Christ ». Le juste est messager de Christ. Nous sommes des adorateurs. Dieu prend plaisir à notre adoration. Il prend plaisir à notre louange. Mais Dieu nous dit, quand vous me louez, vous m'adorez, ce que moi je fais en vous, c'est pour vous donner les capacités pour que vous puissiez aller à l'extérieur, me faire connaître à ces hommes et à ces femmes qui meurent sans me connaître. Vous voyez, hier j'étais à Cholet et notre frère Régis donnait un témoignage de quelqu'un à qui il voulait parler de l'évangile, mais qui repoussait à chaque fois l'évangile. Et cet homme, qui était jeune encore, qui avait la quarantaine, mais il est décédé justement cette semaine. Il est décédé cette semaine tout seul dans sa maison. Il s'est enfermé dans sa maison et il est décédé là. Et le Régis disait, vous voyez, c'est difficile parce que cet homme a eu plusieurs fois l'occasion d'entendre l'évangile, mais à chaque fois, il a repoussé le message de l'évangile. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons savoir et surtout saisir, mais au plus profond de notre être. Le but de Dieu, ce n'est pas que les gens soient détruits. Frères et sœurs, arrêtons de penser que Dieu est un homme, est un Dieu méchant, qui est là, qui cherche à punir ceux qui ont... Non, Dieu est un Dieu juste. Il est juste. Le but de Dieu, c'est de faire en sorte que les gens soient sauvés. La Bible nous dit que c'est pour cette raison même qu'il retarde le jour du retour de Jésus, l'avènement de son Fils. Dans quel but? Afin que le maximum soit sauvé. La Bible ne nous dit pas que Dieu retarde le jour de l'avènement de son Fils pour que nous ayons l'occasion d'achever la construction de notre maison, pour que nous ayons l'occasion d'économiser un peu plus d'argent pour acheter la meilleure voiture de l'année. Non, la Bible nous dit, c'est pour que le maximum soit sauvé. Et comment le maximum peut être sauvé, si ce n'est au travers de vous et moi? Les pasteurs, c'est pas leur boulot, il faut que vous le sachiez. La Bible est claire là-dessus. Jésus a donné les ministères pour former les chrétiens, afin qu'ils s'en aillent. Et c'est eux qui doivent répandre l'évangile. Ce n'est pas aux pasteurs, non. C'est aux chrétiens de répandre l'évangile. C'est pour ça que Jésus a dit, vous allez recevoir mon esprit. Il n'a pas dit, les pasteurs recevront l'esprit. Il n'a pas dit, les évangélistes recevront l'esprit. Les docteurs, les prophètes, les apôtres. Il a dit, vous allez recevoir mon esprit. Et quand vous allez recevoir mon esprit, vous serez mes témoins. Affichons un premier texte dans l'évangile de Jean. Ce sont les paroles de Jésus. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu a regardé l'humanité. En regardant l'humanité, Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Et vous comprenez maintenant le titre de mon message, le juste est messager de Christ. Lorsqu'il y a un message, il y a d'abord l'auteur d'un message. Et l'auteur d'un message va envoyer un messager. Et ce message a une destination. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils. Dieu est l'auteur du message. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Et les destinataires de ce message, c'est les êtres humains, l'humanité. Et ensuite, Jésus nous dit, tout comme le Père a fait de moi le messager dans ce monde, moi aussi maintenant que je suis glorifié, je fais quoi? Je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Et donc, Christ devient l'auteur du message que nous devons porter. Nous sommes les messagers de Christ et le monde est la destination de ce message. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus n'a pas dit, écoutez, je vais envoyer les pasteurs. Excusez-moi d'insister ce matin là-dessus, parce que parfois nous avons une compréhension erronée. Est-ce que vous croyez qu'un pasteur peut évangéliser toute la ville d'Angers? C'est pas possible. Non, frères et sœurs. Non, même son quartier, il aura du mal d'abord. S'il fait que ça, ben, il viendra plus prêcher ici. Il pourra plus préparer les messages, il pourra plus faire les visites. Non! C'est pour cette raison que nous nous réunissons ici. Nous sommes ici, c'est le temple où nous nous formons. Nous adorons Dieu, mais c'est un temple pour la formation, afin d'aller faire l'œuvre du ministère. En vue, Christ a donné les ministères pour l'édification des saints, en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, ce n'est pas ici. Frères et sœurs, si nous restons ici, nous allons juste regarder qui c'est qui a mis la plus belle veste le matin. C'est tout, nous allons faire ça, nous allons nous enquiquiner. Nous n'irons pas plus loin que ça. Quelqu'un qui tourne en rond, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Il a des pensées qui fusent à gauche, à droite, au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Ça va partout. Ben oui, mais quelqu'un qui a un objectif, comme l'apôtre Paul dit, il dit, nous sommes comme des militaires qui ont été enrôlés par le général des générales, sa majesté Jésus-Christ, dans un but, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une mission. Si nous sommes ainsi dans notre tête, nous sommes ainsi dans notre cœur, dans notre âme, nous allons réussir la mission. Mais si au contraire, nous sommes là, nous regardons l'église comme étant un endroit où on vient le dimanche, juste parce que, bon, ça fait longtemps que j'ai pas vu tel frère, bon, c'est bien la communion fraternelle. C'est bien, mais si nous restons comme ça, eh bien écoutez, nous allons tous vieillir et puis il n'y aura plus rien. D'ici 30-40 ans, moi je vais avoir ma crinière toute blanche et puis on va tous partir. Et puis ça va fermer quoi, on va fermer boutique. Dieu était le messager, était l'auteur, celui qui a envoyé le messager Christ. Christ est venu dans le monde. Tout comme Christ est venu, parce que Dieu l'a envoyé, Christ dit, maintenant moi aussi je vous envoie. Je vous envoie dans le monde. Allez-y dans le monde. Et nous allons voir ensemble quelle est la nature et le contenu du message que nous sommes appelés à envoyer. La nature et le contenu du message. Lisons un premier texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voici la nature du message. La nature du message, c'est que Dieu a tellement aimé le... Bon, est-ce qu'on peut détruire les gens qu'on aime? Non, Dieu a aimé le monde... Il a envoyé son Fils afin que nous soyons sauvés. Donc, ça, c'est la nature du message. Tout est là-dedans, la nature du message. C'est que Dieu a vu la souffrance du monde. Dieu a vu la misère de l'humanité. Dieu a vu que le monde était en train de se détruire à cause du péché. Et la promesse qu'il avait faite en Genèse 3, que la postérité de la femme écrasera Satan, il va l'accomplir en envoyant son Fils sur la terre. Et donc il va dire, j'ai tellement aimé l'humanité. Dieu n'a pas dit, j'ai tellement aimé des gens qui sont bons. J'ai tellement aimé des gens qui font le bien. Non, il dit, j'ai aimé le monde. Quel monde? Le monde qui était loin de Dieu. Le monde qui refusait Dieu. Le monde qui était ennemi de Dieu. Le monde qui n'avait point égard de Dieu. Donc c'est ce monde-là que Dieu a aimé. Et c'est dans ce monde qu'il a envoyé son Fils. Et il va dire, donc, la nature de ce message, c'est que c'est un message d'amour, un message de salut. Ce n'est pas un message de condamnation. Quand j'ai l'occasion de discuter avec les chrétiens, je leur dis, le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est que nous voulons faire la morale aux gens qui sont aveuglés. Nous voulons leur dire que ça, c'est pas bien. Dans nos familles, c'est comme ça que nous échouons. Parce que nous voulons dire aux membres de nos familles, ça, c'est pas bien. Non, frères et sœurs. La vie chrétienne est plus que le bien et le mal. La vie chrétienne, il est question de la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous a pas dit que Dieu a envoyé son Fils afin que nous fassions le bien. Non, il a dit afin que vous ayez la vie éternelle. La vie éternelle est plus que le bien et le mal. Dans nos familles, nous devons aimer les gens. Parce que le message de Jésus, c'est le message d'amour. Même lorsque Jésus a été rejeté dans sa patrie à Nazareth, il ne les a pas maudits. Il a continué d'aimer les gens de Nazareth. Nous aussi, nous devons aimer les gens. C'est pour ça que Jésus a dit, maintenant, sous le régime de la grâce, vous êtes capables d'aimer même vos ennemis. Nous devons aimer. C'est le message d'amour. C'est Dieu sauve par amour. Dieu ne sauve pas parce qu'il a envie de juger. Non, il sauve par amour. C'est ça la nature du message. Nous ne sommes pas des juges. Nous sommes là des messagers de l'amour. Dire aux gens que voici, Dieu a envoyé son Fils. C'est ça la nature du message. Un message d'amour et de salut. Maintenant, nous allons regarder ensemble le contenu du message. Lisons un texte. C'est Ésaïe qui prophétise 700 ans avant la venue de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, donc moi, Jésus, car l'Éternel m'a oint, m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. Là, nous entrons dans le contenu du message. Si la nature du message, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés, pour avoir la vie éternelle, c'est un message de salut et d'amour. Là, le contenu, il est de plus en plus explicite. Jésus est venu pour faire quoi? Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et Jésus, comme lui a été envoyé, dit « Je vous envoie de la même manière ». Nous aussi, nous sommes appelés à annoncer quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu aime le monde, frères et sœurs. Arrêtons de condamner le monde. Arrêtons, nous, chrétiens, de condamner notre propre pays dans lequel on vit. Le chrétien ne dit pas que la France ne peut pas réussir, frères et sœurs. Le chrétien dit, avec la grâce de Dieu, la France ira bien, parce que Dieu aime les nations, Dieu est le Dieu des nations. Pourquoi nous avons le même discours que les païens qui ne connaissent pas Dieu? Nous devons proclamer le bien sur notre pays. Nous devons proclamer le bien sur nos familles. Nous devons proclamer le bien sur nos quartiers. Non pas dire, oh mais moi, chez moi c'est des voyous. Non, frères et sœurs. Jésus n'a jamais eu un langage comme cela. Jésus a toujours béni les gens. Jésus a toujours dit, qu'en Dieu il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Quand est-ce que nous allons changer notre discours? Nous ne pouvons pas de la même bouche, de la même source, faire sortir de l'eau amère et l'eau douce. Nous ne pouvons pas un temps prier pour que les gens soient sauvés, ensuite les condamner par nos mêmes paroles. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Ça ne marche pas. Jésus a aimé le monde l'a rejeté. Nous devons aimer les Français, même s'ils sont difficiles. Dieu nous a placés là pour les aimer. Nous n'avons pas de choix, nous devons les aimer, c'est comme ça. Nous n'avons pas à dire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Non, Dieu nous a dit qu'il ne nous a pas mis comme juges sur la terre. Il nous a mis comme les messagers de l'amour, les messagers de paix et de joie. C'est ça, frères et sœurs. Le but de l'Église, c'est ça. C'est ça le but de l'Église. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour accorder la liberté à tous les captifs, à tous les prisonniers de Satan. Il est venu donner la délivrance. Il est venu apporter aussi la grâce, la consolation. Voici le contenu du message. C'est ça que nous devons dire aux gens. Est-ce que dans bonne nouvelle, il y a condamnation? Est-ce que dans guérison, il y a condamnation? Est-ce que dans liberté, il y a condamnation? Est-ce que dans délivrance, consolation ou grâce, il y a condamnation? Non. Il n'y a que la bonté de Dieu qui est manifestée là. Il n'y a que l'amour de Dieu pour le salut qui est manifesté. Jésus est venu accomplir ces choses. Il est venu annoncer ces choses. Et à nous maintenant de les annoncer aujourd'hui. Parce que Jésus se prolonge, il fait un prolongement de sa personne dans son Église. C'est pour ça qu'il appelle l'Église son corps. C'est pour faire quoi? C'est pour faire la volonté de Jésus. Si lui est la tête, excusez-moi, nous savons tous, parce que ici on connaît, vous êtes tous des grands médecins, vous connaissez bien la médecine. Vous savez que quand la tête ne va plus, même le corps ne suit plus, oui ou non? La centrale, ce n'est pas le cœur, beaucoup se trompent. Vous savez qu'on déclare quelqu'un mort, ce n'est pas avec le cœur. Souvent les gens sont déclarés morts, le cœur continue de battre. C'est dedans, là. Quand il est dedans, il n'y a plus d'activité, là on dit bon, lui là c'est fini. Celle-là c'est fini. C'est dans le cerveau. On déclare quelqu'un cliniquement mort lorsque l'activité cérébrale a cessé. La Bible nous dit que Jésus est la tête. Nous sommes les membres du corps, oui ou non? Alors, si Jésus nous dit que nous sommes appelés à faire ce que lui a fait, faisons-le, frères et sœurs, faisons-le. Faisons-le. C'est pour ça. C'est là-dedans que nous allons être heureux. C'est là-dedans que nous allons avoir le bonheur suprême de Dieu. Parce que vous savez quoi, frères et sœurs? Si Dieu dit que voici les choses, c'est Jésus qui a dit, voici les choses qui vont accompagner ceux qui ont cru. Quand il dit accompagner, les choses vont accompagner qui? Des hommes et des femmes qui sont en mouvement. C'est ça que vous devez comprendre. C'est des hommes et des femmes qui sont en mouvement dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont assis. Non, frères et sœurs, on aura beau prier pour que les gens soient sauvés. Mais à un moment, il faut qu'on leur donne l'évangile. Si on ne leur dit pas que Dieu les aime, si on ne leur dit pas que Dieu veut les sauver, mais ils vont entendre quoi? Ils vont se fier à ce qu'ils entendent à l'extérieur qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas biblique. Lisons un autre texte, nous sommes toujours dans le contenu. Voici ce que l'apôtre Jean va déclarer. Il dit « Jésus lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. » Ça nous embête les chrétiens, parce qu'on croit que Dieu nous a sauvés. Maintenant, nous formons notre petit club, on est là, entre nous. On se retrouve le dimanche, on est bien, frères et sœurs. Alors ça va, Éric, t'as passé une bonne semaine. Alors, on est là, on est content entre nous, c'est bien. Je ne suis pas contre ça. Mais frères et sœurs, nous ne sommes pas un club. Nous ne sommes pas un club. Nous sommes appelés, justement, à nous occuper du monde. Oh, nous nous sommes à Angers, occupons-nous déjà d'Angers. Hein? Voilà. N'allons pas trop loin, occupons-nous déjà d'Angers, de l'Anjou peut-être, pour ceux qui sont un peu plus costauds, qui peuvent bouger dans l'Anjou, allez-y, faites-le, moi je vous y encourage. Et là, c'est Jean-Baptiste, c'est toujours Jean qui parle, c'est Jean-Baptiste, lorsqu'il va voir Jésus, voici ce qu'il va dire de lui, le lendemain il vit Jésus, donc Jean-Baptiste vit Jésus, venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, nous devons annoncer, le contenu du message c'est que Jésus est venu pour porter les péchés de l'humanité. Il est venu se sacrifier pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Donc là, nous sommes toujours dans le contenu du message. Nous avons besoin de dire ça aux gens, plutôt que de dire aux gens, « Oh, mais tu sais, tu es dans le péché. » Mais il sait déjà qu'il est dans le péché, alors où est la solution? Quand vous allez voir votre médecin, il vous dit, « Mais écoutez, monsieur, madame, vous êtes malade. » Et puis c'est fini. Est-ce qu'il y a un médecin qui fait ça? Il n'y a aucun médecin qui fait ça. Il vous ausculte. Il établit le diagnostic. S'il s'arrête au diagnostic, ben là, c'est dangereux pour vous et moi. Heureusement qu'il nous propose aussi une thérapeutique, qu'il nous propose des médicaments pour nous guérir de notre mal. Donc on ne peut pas juste dire « le monde va mal ». Mais oui, mais le monde va mal. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que c'est à toi et à moi que Jésus a donné justement l'autorité pour pouvoir faire du bien à ce monde-là? C'est à toi et à moi. Et oui, c'est comme ça. Et si le monde va mal, c'est à toi et à moi de faire en sorte que le monde aille mieux. Jésus est venu, il s'est venu se donner sur le bois de la croix pour les péchés non seulement pour les nôtres, parce qu'il était important de préciser cela, parce qu'ils auraient pu croire, parce que déjà, ces hommes étaient d'une religion qui croyait que le Dieu, Jéhovah, était leur Dieu exclusif. Eh bien oui, donc le Saint-Esprit a inspiré Jean pour lui dire, non, dis-leur que vos péchés, vous qui avez déjà accepté Jésus, ils ont été pardonnés. Mais ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi pour le monde entier. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Poursuivons la lecture. Et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom, donc au nom de Jésus à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous, on peut dire à commencer par Angers. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés est annoncé. Donc nous sommes aussi appelés à faire quoi? À prêcher la repentance et le pardon des péchés. Dire aux gens, mais voilà, vous devez vous repentir. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit un jour, a dit le jour de la Pentecôte. Lorsque les gens, après son discours, sont venus le voir pour lui dire, mais c'est bien beau Pierre, merci de nous avoir fait ce beau discours, mais après ton discours, maintenant on fait quoi? Et Pierre de leur dire, il faut que vous vous repentiez et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir quoi? Mais le don du Saint-Esprit, qui est non seulement pour vous, mais qui est aussi pour vos enfants. Vous voyez? Donc, l'apôtre Pierre, il faut que vous vous repentiez, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir entrer justement dans cette bénédiction de Dieu, qui est le salut. Donc, Jésus nous appelle à faire quoi? À parler de lui. À dire que c'est lui qui est l'auteur du du pardon des péchés. C'est lui qui donne à tout homme, à toute femme, la capacité de se réconcilier avec Dieu. Dans son œuvre achevée de la mort à la résurrection, Jésus-Christ prend un homme, prend une femme, justement, il lave cette personne et il fait de cette personne agréable aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, c'est notre mission. Nous devons prêcher la repentance et le pardon des péchés. Nous ne devons pas condamner le monde, ça ne sert à rien. Le monde souffre tellement déjà. Le monde est déjà dans la détresse. Ce dont le monde a besoin, frères et sœurs, ce sont des chrétiens, des fils de Dieu, qui leur montrent la révélation de qui est Dieu véritablement. C'est de cela dont le monde a besoin, la révélation de Dieu. Regardez que Dieu, c'est ça, la Bible dit que le monde entier soupire après un ardent désir, c'est de voir quoi? La révélation des fils de Dieu, la révélation des fils, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont parvenus à la maturité et qui manifestent le caractère de Dieu, qui manifestent l'amour de Dieu, non plus en fonction des circonstances, mais qui le manifestent indépendamment même des circonstances qu'il y a autour d'eux. Voilà, c'est ça. Nous devons faire en sorte que les gens sachent que nous sommes nés de Dieu, que nous lui appartenons, que nous faisons partie, nous faisons partie de sa nature. Nous sommes participants, du moins, pour employer le texte biblique, nous sommes participants de la nature de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Maintenant, allons-y regarder ensemble quelles sont les caractéristiques du messager. Nous avons vu la nature du message, nous avons vu le contenu du message. Maintenant, allons voir quelles sont les caractéristiques du messager que nous sommes chacun et chacune. Quelles sont les caractéristiques ? Lisons un premier texte. Voici ce que Jésus dit. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça nous ennuie, frères et sœurs, en tant que chrétiens. Parce que dans notre monde, lorsque nous naissons, nous évoluons, nous dépendons des gens, et lorsque nous arrivons à l'âge adulte, nous cessons de dépendre des gens. Pourquoi ? Parce que nous avons appris des choses et nous nous sommes peut-être bâti un métier. Et avec ce métier-là, nous allons travailler, nous allons devenir autonomes. Et on arrête de dépendre des gens. Mais la vie chrétienne, Jésus nous dit que lui est le cep, il est le tronc de l'arbre. Et nous sommes les branches. Et il dit que la branche qui demeure en lui... Et en qui il demeure portera beaucoup de fruits. Mais il dit, si nous n'y prenons pas garde, pour vouloir faire les choses par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il faut que nous comprenions cela. Ce n'est pas vraiment l'objet de ma prédication ce matin. Mais c'est profond, quand on vous parle du cep et des sarments, c'est pas juste une image simple comme ça, non, c'est quelque chose de profond. Parce que vous devez savoir que le tronc, c'est le seul qui est capable de puiser les ressources nécessaires pour l'harmonie, pour le bien-être de l'arbre, oui ou non. Aucune branche ne va dans le sol pour pouvoir puiser les minéraux, les nutriments dont l'arbre a besoin. C'est le tronc qui a les racines. Jésus vous dit, il est le tronc, c'est lui qui a les racines. C'est lui qui donne la vie. La vie vient de lui. Il dit, la vie qui circule dans les branches, elle provient de lui. Il dit simplement, si tu demeures en lui, tu reçois cette vie-là. Et au travers de cette vie, tu vas porter beaucoup de fruits. Et parce que tu vas porter beaucoup de fruits, plus loin, Jésus dira, mon Père va être glorifié et il va t'émonder. Et quand il dit il va t'émonder là, c'est le principe de l'éclaircissage. Vous avez déjà fait la cueillette des pommes ? Vous savez que vers le mois de juin, au début de l'été, on fait l'éclaircissage. On fait quoi ? On va enlever des pommiers, toutes les branches qui ne servent. Je vous dis que c'est toute une étude. Si vous prenez Jean 15 là, le cep et les sarments, c'est une étude. Si vous vous arrêtez là-dessus, vous avez compris tout le message biblique. Parce que Jésus était en train de nous expliquer ce dont il est véritablement question de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Donc la première chose, c'est que le juste est un sarment de Christ. Donc tu ne peux rien, tu es attaché à Christ. Lorsqu'on coupe, vous avez remarqué que le tronc, si on coupe toutes les branches du tronc, est-ce que le tronc meurt? Mais si on coupe une branche, la branche qui n'est plus sur le tronc, elle fait quoi? Frères et sœurs. Donc qui c'est qui dépend de l'autre? C'est la branche ou le tronc? C'est la branche qui dépend du tronc, on est d'accord? Et pas l'inverse. Parce que la branche qui est coupée là, le tronc, avec sa force, sa capacité à aller puiser dans le sous-sol les nutriments dont il a besoin, il va faire pousser quoi? D'autres branches. Faut que vous compreniez. C'est pour ça que Jésus dira plus loin. Il dit, si tu ne sers à rien, il fait quoi? Eh bien oui. Ah, c'est pas pour vous faire peur ce matin, frères et sœurs. C'est à nous de faire en sorte que Jésus ne nous mette pas au placard. Parce que si on ne porte pas de fruits, et oui, quelqu'un qui a sa pommeraie, quelqu'un qui a sa pommeraie, qui veut avoir du fruit, mais il va enlever les branches qui n'ont pas fleuri, il va les enlever pour que celles qui ont fleuri puissent recevoir plus de soleil. Il ne faut pas être encombrant inutilement. Je vous dis que c'est toute une étude, le cèpe et le sarment. Donc la première chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes en Jésus et nous dépendons de lui. Et nous ne pouvons rien faire, comme il nous dit, sans lui. Lisons un autre texte. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Vous avez remarqué, sur un arbre fruitier, il n'y a pas les fruits sur le tronc. Le fruit se trouve toujours où? Sur les branches, on est d'accord. Les feuilles se trouvent où? Ézéchiel nous dit que, justement, je ne vais pas faire une grande étude détaillée, mais Ézéchiel nous dit que, justement, le juste qui est ce sarment-là, qui est attaché à Jésus, il dit... Il porte le fruit, sur la branche qu'il est, il y a du fruit et il y a des feuilles. Il dit les feuilles, le fruit va servir de quoi? De nourriture. Et les feuilles vont servir de quoi? De remède. Mais pour qui? Pour les nations. Pour les nations, frères et sœurs. Nous sommes dans une belle salle ce matin. Béni soit Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Mais ce ne sont pas les anges qui sont venus qui ont fait ce travail. C'est un homme avec son épouse. Aujourd'hui, on dit les gens sont jeunes, ils avaient une vingtaine d'années. Ils se sont sacrifiés pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier? C'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que nous sommes prêts à donner de nous-mêmes pour que les nations soient nourries et que les nations soient guéries? C'est ça que Dieu nous demande. Si ce jeune couple n'était pas venu à Angers, malgré tout ce qu'ils ont pu subir, s'ils n'avaient pas résisté avec la force de Dieu, est-ce que nous serions en ce lieu ce matin? Si l'apôtre Paul ne s'était pas donné entièrement à Dieu pour dire « Je vais suivre ce que le Saint-Esprit me demande de faire, je vais aller à travers les nations annoncer l'Évangile », est-ce que l'Évangile serait arrivé en Europe? Oh, les anges ne connaissent pas l'Évangile pour l'annoncer. Ce sont les hommes qui annoncent Jésus. Ce sont les hommes qui parlent des bienfaits de Dieu. Ce sont les hommes qui sont appelés, comme nous l'avons déjà vu ce matin, à faire justement la proclamation de l'amour de Dieu pour le monde et que Dieu a envie de sauver ce monde, frères et sœurs. Nous devons poursuivre l'œuvre. Ce que Dieu a fait au travers de ce couple, nous sommes héritiers aujourd'hui. Mais est-ce que nous devons être des héritiers insensés pour dilapider l'œuvre que Dieu nous a laissée au travers de ce couple qui est venu? Non, frères et sœurs, nous devons poursuivre l'œuvre. Nous devons faire en sorte que l'œuvre continue de prospérer. Nous devons faire en sorte que l'œuvre ne s'arrête jamais. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez tous devenir des pasteurs. Non, mais soyez des témoins efficaces. Soyez des branches sur lesquelles il y a du fruit. Et ayez justement des feuilles sur vos branches afin de guérir ces nations. Commence à guérir les gens qui sont autour de toi. Quand on parle de guérir ici, il n'est pas question de faire la médecine. Nous ne sommes pas tous les médecins, mais toi tu es un médecin à la façon de Dieu. Tu es là pour guérir les âmes, tu es là pour guérir les cœurs brisés. Tu es là pour apporter le secours à ceux qui sont dans le désespoir. Et le but de l'église, c'est celui-là. Le but de l'église n'est pas de se ratatiner dans une salle, mais d'aller à l'extérieur. Jésus n'était jamais resté au même endroit. Il y est toujours allé, là où le besoin se trouvait. Il y allait, il a porté la solution. Et l'apôtre Pierre dira dans Actes 10, 38, il dira ce Jésus-là, oh, il était loin du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu l'a rempli de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle et faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Frères et sœurs, c'est ça la mission de l'Église. L'Église qui ne va plus à l'extérieur, elle meurt. Vous avez beau vous dire, oui, la folie pour la vie, par exemple, c'est n'importe quoi. C'est une erreur, frères et sœurs. C'est une erreur. Quand Dieu nous donne une porte qui s'ouvre, nous devons la saisir. Et aujourd'hui, nous sommes là, il y a des gens qui disent, non, c'est pas spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel? C'est d'aller demander de l'eau à une femme au bord d'un puits. C'est spirituel? N'est-ce pas comme ça que Jésus a eu la femme samaritaine? Il allait au bord du puits. Est-ce que c'était spirituel d'aller demander de l'eau à une femme? Dites-moi. Mais Jésus savait que cette femme était la porte de Sichar, était la porte de la Samarie. Il savait qu'en ayant cette femme, c'était terminé. Et quand cette femme a été convaincue, qu'a-t-elle fait? Elle est allée à Sichar, elle est allée annoncer qu'il y a un homme qui connaît toutes choses de sa vie. N'est-ce pas le Messie? Ce ne serait-ce pas le Messie? Et là, les hommes ont commencé à suivre la femme pour dire, mais où est-il cet homme? Nous aussi, nous devons annoncer comme la femme samaritaine pour que les gens nous disent, mais où est votre Jésus? Alléluia! C'est cela, frères et sœurs. Je ne suis pas en colère, ça bouillonne dedans. Parce que l'Église se ratatine. L'Église se ratatine. Nous sommes appelés à une expansion spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à être rabougris là. Non, frères et sœurs. Nous venons ici pour nous former. Nous venons ici pour recevoir des enseignements. Et avec ces enseignements, nous devons être capables, nous aussi, de nous multiplier à l'extérieur. C'est cela, frères et sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Combien de fois devrais-je vous le dire? Pourquoi vous vous résumez à votre destinée naturelle? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes filles et fils du grand roi. Alléluia. Frères et sœurs, c'est à nous. C'est la branche qui porte le fruit. C'est la branche qui porte les feuilles. Et donc, c'est à nous de donner à manger. Oui, la nourriture spirituelle à ce monde qui est perdu, qui ne sait plus comment faire. Et c'est à nous de leur apporter la guérison. C'est notre boulot, ça. C'est notre rôle, frères et sœurs. Ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour chaque chrétien. C'est pour chaque chrétien. Si vous voulez que le diable vous prenne au sérieux, vous devez rentrer dans votre destinée, destinée divine. Sinon, il ne vous prendra jamais au sérieux. Il va vous malmener, il va vous détruire, votre famille, il va faire ce qu'il... Non, mais si vous ne rentrez pas dans votre destinée, le diable n'a pas peur des gens. Écoutez, je ne suis pas en train de mépriser. Vous avez beau prier, beau jeûner. Le diable sait que les gens qui prient et qui jeûnent, ils sont même nombreux, plus nombreux que parfois ceux qui sont enfants de Jésus. Vous savez que nous ne sommes pas, du moins le christianisme, ce n'est pas là où on trouve des gens qui prient le plus. Vous le savez, ça. Vous le savez. Donc lui, ça ne lui fait pas peur. Le diable, il a peur des hommes et des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Dès que tu obéis à la parole de Dieu, le diable devient quoi? Il devient quelqu'un qui te craint. Il te craint pourquoi? Parce que tu es dans les voies de Dieu. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que Satan, il faut lui résister avec quoi? Une foi ferme. Mais la foi vient de quoi? De la parole. Mais comment peux-tu avoir la foi si tu n'obéis pas à cette parole-là? C'est ça, frères et sœurs. Le messager est un sarment. Poursuivons la lecture. Et tout cela vient de Dieu, donc qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit, attention, ne restons pas là seulement, c'est bien les dons spirituels. Eh oui, c'est bien, ça fait du bien, Dieu nous parle, c'est bien. Il dit, mais non, mais faites attention, c'est que nous sommes appelés à quoi? Au ministère de la réconciliation. Et là, est-ce que le ministère de la réconciliation, c'est juste pour les pasteurs? Non, c'est pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à réconcilier les personnes qui ne connaissent pas Dieu avec Dieu. Nous sommes appelés au ministère de la réconciliation. C'est ça notre but, frères et sœurs. Nous sommes appelés à faire le pont entre Dieu et ce monde perdu. Comment voulez-vous que le monde puisse connaître Dieu s'il n'y a pas de messagers qui vont justement le leur faire connaître? C'est pour ça que Christ a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé, moi je retourne au ciel, maintenant je vous envoie, c'est à vous de prendre le flambeau, c'est à vous de prendre la main maintenant, c'est à vous de faire ce que moi j'ai commencé, ce que je vous ai montré. Le ministère de la réconciliation, réconcilions les hommes, les femmes de ce monde avec Dieu. Et l'apôtre poursuivra plus loin, il dira, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. C'est-à-dire que nous sommes envoyés dans le monde pour servir quoi? Notre patrie céleste. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est envoyé par son pays dans un pays étranger. Et dans le pays étranger, il représente qui? Il représente simplement son pays. Il fait la promotion de son pays. Et quand l'ambassadeur dans un pays étranger se déplace, qu'est-ce qui se passe? Il y a le drapeau de son pays qui flotte, oui ou non? Mais quand c'est un ministre du pays qui va dans un pays étranger, il n'y a pas de drapeau. Il n'y a pas la bannière du pays, non. C'est l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur, c'est celui qui représente le pays. C'est celui qui est censé faire la promotion du pays, qui est censé faire connaître le pays, qui est censé faire connaître la culture du pays, qui est censé faire connaître tous les points positifs, tous les points importants du pays pour que ce pays-là soit attrayant pour son pays hôte. C'est ça l'objectif. Donc nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous sommes là pour faire quoi? Mais pour faire, comme je l'ai dit, la promotion du royaume de Dieu auprès de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes à Angers pour faire la promotion du royaume, frères et sœurs. Que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons rouges, verts ce matin, que nous soyons angevins ou non, dès lors qu'on rentre, on est dans le royaume de Dieu, on devient ambassadeur pour Christ. Même si tu es angevin, tu es Angers, tu es ambassadeur pour Christ. Tu es ambassadeur. Nous sommes tous ambassadeurs pour Christ. Et nous sommes ici pour faire la promotion de du royaume de notre Père. Pour dire, écoutez, dans le royaume, c'est l'amour qui règne. Dieu vous aime. Dieu ne veut pas vous laisser tomber. Dieu ne veut pas que vous croyiez qu'il est méchant, qu'il cherche juste à vous punir. Dieu est là parce qu'il a besoin, parce qu'il sait que vous avez besoin de lui, et il nous envoie pour vous dire simplement, vous avez besoin lui, vous aussi de lui, et retournez à lui. Soyez réconciliés avec lui. Nous devons faire ce boulot. Nous devons faire ce boulot, frères et sœurs. Nous sommes importants. L'ambassadeur est quelqu'un d'important, frères et sœurs. Il faut que vous compreniez une chose. L'ambassadeur dans son pays hôte, est-ce que vous savez que l'ambassade où il est considérée comme un pays étranger? L'ambassade dans un pays est considérée comme un pays étranger, ça dit comme le pays, ça dit l'ambassadeur, par exemple, de France en Allemagne, par exemple, l'ambassade de France en Allemagne, c'est la France. Et on parle d'immunité diplomatique. Oh, alléluia. Si nous comprenons cela, frères et sœurs, nous comprenons que nous avons l'immunité céleste, nous avons l'immunité de Dieu. Nous avons cela, Dieu ne nous envoie pas. Il dit, comme le Père m'a envoyé, comment Dieu a-t-il envoyé Jésus? Est-ce qu'il l'a envoyé en pâture dans le monde? Non! Dieu a envoyé Jésus comment? Il l'a envoyé, il est né comme tous nous sommes nés. Il a grandi comme tous nous avons grandi. Et un jour, il s'est rendu au Jourdain. Et au Jourdain, il s'est fait baptiser, comme la plupart d'entre nous ce matin, nous sommes fait baptiser. Et il est allé se faire baptiser. Et là, la Bible nous dit qu'il a prié. Et quand il a prié, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et le Père a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça dit, en qui? Voilà. Et il dit, j'ai mis toute mon affection. Et Jésus a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit? Bien sûr que oui. C'est lui qui nous a fait naître dans le royaume. Ce que Jésus a reçu, nous l'avons reçu. C'est pour cette raison qu'il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dira aux disciples, écoutez, si vous voulez être performant, Il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le Père puisse envoyer le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs. Ministère de la Réconciliation. Lisons un dernier texte pour conclure. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais pas entièrement sur la terre. » C'est ça que la Bible nous dit. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Où ? Dans le ? Et sur ? Il dit « Allez, faites de toutes les nations des ? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du ? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Voilà. Donc Jésus ne nous demande pas d'aller pour faire par nous-mêmes. Non. Il dit, je vous demande d'aller dans quel, pour quelle raison ? Parce que maintenant j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il dit, celui qui était votre ennemi, qui arrivait à vous vaincre par vos propres, vaincre vos propres forces, désormais, quand vous aurez le Saint-Esprit en vous, il est en vous, il est plus puissant que Satan qui est dans le monde. Et à cause de cela, non pas que vous n'allez pas connaître la résistance, il va y avoir de la résistance, de l'adversité, mais il dit, mais j'ai tous les pouvoirs, parce que j'ai tous les pouvoirs, je suis la tête de l'Église. Vous êtes les membres de mon corps. Et donc, quand vous êtes les membres de mon corps, j'ai tous les pouvoirs, donc Satan ne pourra pas vous vaincre. C'est pour cela qu'il dira à Pierre, Pierre, il faut que tu saches, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elles vont valoir, mais elles ne peuvent pas prévaloir. Elles ne peuvent pas dominer l'Église. Satan ne peut pas, je le dirai partout où j'irai, Satan ne peut pas arrêter l'Église. L'Église est inarrêtable, l'Église est indestructible. L'Église, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la sagesse humaine. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est la volonté de Dieu. Satan, quelle que soit sa puissance, il ne peut pas faire en sorte que l'Église faillisse. La seule chose qui peut faire en sorte que l'Église n'avance pas, c'est vous et moi, frères et sœurs. Il a donné, il dit j'ai tout pouvoir. Et vous vous rappelez, Jésus va dire à ses 70 disciples qui vont revenir de la mission où il les avait envoyés, ils vont revenir et il leur dira, quand ils vont faire le compte rendu à Jésus, Jésus va leur dire, mais je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de qui ? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu devrais te réjouir de cela. Arrête d'avoir peur de Satan. Arrête, Satan c'est un petit. Il ne faut pas avoir peur de Satan. Il ne peut rien te faire. Si Satan pouvait te tuer, il l'aurait fait déjà. Qui crois-tu te garde ? Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Fais confiance à ce que Jésus dit. Satan va essayer de t'empêcher de rentrer dans ta destinée divine. Parce qu'il sait que si tu y entres, tu deviens une bombe atomique pour lui. Tu deviens une misère pour son royaume des ténèbres. Tu vas aller comme un soldat va dans le camp ennemi. Parce qu'il a la confiance de tout son bataillon, il y va. Et il va chercher les personnes qui sont blessées, les personnes de son camp. Tu vas faire ça, tu vas aller chercher dans le camp de l'ennemi ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils rentrent dans la réconciliation avec Dieu, pour qu'ils rentrent à la maison, pour qu'ils reviennent à Dieu. Tu vas y aller. Oh, mais si tu comptes sur tes propres forces, tout comme moi, nous n'y arriverons jamais. C'est ce que Jésus nous a dit. Il a dit, le sarment ne peut rien de lui-même. Quelle que soit sa taille, il ne peut rien de lui-même. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre cela. Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Oh non, pas en utilisant la... Non, pas besoin d'armes. Le chrétien a des armes secrètes. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par qui ? Par le Saint-Esprit. Répand la justice là où l'injustice règne. Répand la paix là où il n'y a pas de paix. Répand la joie là où c'est le deuil qui règne. Vas-y, c'est ça ton rôle. C'est cela. C'est cela. Nous sommes appelés à ça, frères et sœurs. Faisons de toutes les nations les disciples et baptisons-les au nom du Père, du Fils et enseignons-leur ce que Jésus a observé. Ce que nous recevons aujourd'hui, c'est ce que Jésus a donné aux hommes. Bien évidemment, qui l'ont suivi. Et certains autres qui ont accepté le message de l'évangile plus tard.
frères et sœurs. Nous sommes appelés à cela. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous allons rester juste comme un club? Est-ce que nous allons constituer une secte? Moi, je sors les mots ce matin, j'ai pas... Voilà. Parce que les caractéristiques de la secte, c'est quoi? C'est des gens qui sont renfermés entre eux, qui ne voient plus à l'extérieur. C'est lui les caractéristiques principales. C'est cela, frères et sœurs. Est-ce que nous allons continuer à dire, oh, le monde, toujours le monde? Mais le monde, nous l'avons vu. C'est pas ce monde-là que Dieu a aimé. C'est pas pour ce monde-là que Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pas non plus dans ce monde-là que Jésus nous dit aujourd'hui, comme le Père vous a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais ça veut dire que Dieu aime ce monde-là. Dieu aime ses hommes, il aime ses femmes, il aime ses jeunes gens. Est-ce que nous allons passer toute notre vie à dire, bon, les jeunes, ils se droguent? Mais oui. Mais soyons la solution. Parce que nous savons que quand quelqu'un découvre qui est Jésus, l'accepte comme sauveur et Seigneur, sa vie change, sa vie est transformée. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Gloire et louange te soient rendues. Honneur à toi, victoire à toi. Seigneur, merci infiniment parce que tu as fait de nous les sarments de Christ pour guérir et pour prendre soin, Seigneur mon Dieu, des nations, ces hommes et ces femmes. Oui, Seigneur, tu nous regardes du haut de ton trône. Tu regardes ce que nous sommes en train de faire. Et ce que tu désires, Seigneur, c'est que cette assemblée à Angers rentre dans la mission de Jésus-Christ. Ce que tu désires, c'est que nous puissions te faire confiance. Nous allons connaître peut-être des moments difficiles, tout comme le pionnier et la pionnière qui ont mis cette église en place ont rencontré. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi prendre, Seigneur, plus de terrain dans cette ville d'Angers, dans ce pays de l'Anjou. Nous voulons, Seigneur, nous liguer contre l'ennemi, parce que tu es notre force, parce que tu es notre puissance. Et pourquoi, Seigneur, nous allons nous arrêter alors que nous savons que ton désir, ta volonté, c'est que le monde soit sauvé? Alors, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, et que toute la gloire te revienne, Père, parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est par ta grâce, et c'est pour la seule et unique gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, Père. Amen.